Il y a une dizaine de jours, on était quelques-uns pour la commémoration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour ceux qui étaient là, ben, ce sera un rappel. Pour les autres, ce sera une découverte. Et je vais le partager avec tout le monde et me rappeler à moi aussi. Le thème était « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Et les lectures comprenaient d'abord une lecture des visites des trois hommes à Abraham, près des chemins de Mamré, vous en parlez, c'est dans Genèse 18, et une lecture dans Luc 10, 25 à 37. Pour ceux qui ont des bons yeux, vous pouvez lire, si pas, il faudra prendre votre Bible, Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui ». Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, va et toi, fais de même. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons nous mettre encore devant toi, devant ce texte. Merci parce que tu vas donner ton message, ta parole. Merci parce que ces textes ont traversé des siècles pour nous arriver. Et encore aujourd'hui, ils sont toujours d'actualité. Seigneur, nous puissions être renouvelés dans notre esprit, dans nos forces, dans notre âme, Seigneur. Et que nous puissions aller et faire de même. Amen. Regardons d'abord quels sont les acteurs de ce récit. Un docteur de la loi ou un maître de la loi, ben, rien à voir avec un avocat actuel ou un juge, mais un érudit de la Torah. Quelqu'un qui connaît bien l'Ancien Testament, la loi de Dieu donnée à Moïse, et qui vraiment connaît très bien. On dirait peut-être un ultime théologien aujourd'hui. Deuxième personnage, le sacrificateur au service de Dieu au service du temple de Jérusalem. Troisième personne, le Lévite était de la tribu de Lévi et était voué au service du temple. Donc ces trois fonctions ont un rapport avec la religion de l'époque. Ce sont tous de grands religieux, vu qu'ils sont là, ils connaissent, ils sont au temple, ils sont là. Et puis bon, ben, il y a le pauvre passant qui se fait agresser. On ne connaît rien de lui, ni sa nationalité, ni sa religion, rien du tout. Et puis il y a ce Samaritain, l'étranger, rejeté, que l'on appelle actuellement le bon Samaritain, sans doute pour son action sociale, parce qu'on ne connaît pas plus s'il est bon ou pas, on n'en sait rien. Et puis il y a Jésus qui est au centre de la scène et qui répond aux questions. Première question, justement, maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? Question intéressée, dirigée. ce docteur de la loi, ce maître de la Torah, vient à Jésus par intérêt quand même, et pour l'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Sinon, il aurait posé simplement la question, ben, qu'est-ce que je dois faire? C'est tout. Que dois-je faire pour gagner quelque part mon paradis? Pour y arriver? Je dois acheter quelque chose, je dois faire quelque chose. On se sans doute tous posé la question. Et juste un peu cette question qui est parfois souvent embarrassante ou traumatisante quelquefois, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Juste une petite parenthèse que j'ai déjà racontée. Quand j'étais jeune, je me suis posé cette question une fois, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je voulais servir le Seigneur. Je me dis, je veux faire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Oui, j'entends qu'un grand prédicateur, enfin, à Vichy, fait une retraite. Donc avec le groupe de jeunes, on part 3 jours là-bas à Vichy. Oh, donc 600 km, parti de Borinas. Et bon, la prédication part. Et puis au cours d'une fin de prédication, il demande, il propose la prière à tout le monde. Quoi. Donc à l'époque, on se mettait en fil et il priait chaque fois pour toutes les personnes, donc une dizaine, comme ça. Moi j'arrive avec ma question et avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, il me dit, tu n'as plus rien à faire, tout est accompli. Ils m'ont 1200 km pour s'entendre dire ça. J'étais encore pire que quand je suis arrivé. Bon, bien des années plus tard, je me suis aussi retrouvé dans une réunion avec Anita Pierce, ici à Liège. Et la même chose, après une affaire, tout est accompli. Mais là, j'ai compris que Dieu avait tout fait pour moi et que bon, moi, je n'avais plus rien à faire pour gagner mon salut. Que ce que j'avais à faire, c'est parce que j'étais sauvé. Mais bon, si on revient à notre docteur de la loi, il veut, lui, une réponse. Qu'est-ce que fait Jésus? À sa question, ben, il lui donne une question. Qu'est-il écrit dans la loi? Ben, sous-entendu, ben, comme tu la connais, tu dois savoir, toi. Hein, sous-entendu, ben, tu dois la connaître très bien. Donc, pourquoi tu me poses la question, quoi, hein? Ouais, notre maître de la loi de répondre, un petit peu d'arrogance comme ça, hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, vu qu'il connaît bien cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Notre thème pour la semaine de prière, justement. Et Jésus d'ajouter, bah, c'est bien, t'as gagné, t'as 10 sur 10, t'as bien répondu, tu connais la théorie, eh bien maintenant, bah, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, mets-la en pratique. Tu sors de l'école, ben vas-y, va travailler. Et l'érudit religieux, ben, quand même embêté, hein, il essaie de justifier, dialogue un peu de questions comme ça, mais qui est mon prochain? Vous avez remarqué? Il ne relève même pas la première partie, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Peut-être est-il sûr de lui, comme il connaît Dieu, comme il connaît la Torah, il connaît Dieu, il n'y a pas besoin, hein, quand même plus facile peut-être à honorer Dieu qu'à aimer son prochain. Dieu est peut-être plus facile à côtoyer, ou alors mieux vaut le laisser de côté. On ne sait jamais, mais bon, voilà. Dans sa tête, peut-être, on va laisser Dieu de côté, et puis on va quand même essayer de questionner Jésus. Qui est mon prochain? C'est certainement peut-être plus facile d'aider son prochain que de rester fidèle à Dieu. Peut-être. Mais pour bien aimer quelqu'un, nous, petit être humain. Vous savez quand même que pour aimer quelqu'un, il faut bien le connaître. Hein, je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Il me semble que c'est logique. Je ne sais pas vous. Alors comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, comme nous décrit aussi la Torah, la loi de Dieu que Jésus répète. Comment le connaître à fond? Mais il y a deux manières, comme on a vu aujourd'hui, dans la création. Dieu se révèle dans la création, une révélation générale, le Dieu créateur. Et aussi la révélation particulière qui est Jésus. Jésus qui révèle le Père. Qui a la Bible, qui est une révélation écrite, parole de Dieu. Et puis, il y a le Saint-Esprit. Révélation qui habite en nous, si on lui laisse toute la place. Parfois on peut l'éteindre, parfois on peut l'endormir. On le laisse de côté. Mais il paraît qu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc, la révélation est en nous. Mais bon, connaître Dieu est une chose. Et l'aimer en est une autre, comme j'ai déjà dit. On peut connaître bien des choses sur Dieu, sur Jésus, mais ne rien connaître de Dieu, de Jésus. Comme exemple, je connais le roi des Belges, moi. Mais je ne sais pas comment il vit. Je ne le connais pas dans l'intimité, je ne le connais pas dans l'amitié, je ne le connais pas tel qu'il est tous les jours. Mais je connais des choses sur lui. Dieu, par contre, lui, se laisse rencontrer dans l'intimité de la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la Bible, par l'intermédiaire de la vie de Jésus, il se laisse toucher, il se laisse rencontrer. Mais justement, qu'est-ce que nous dit la Bible ? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il y a haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Les deux sont liés. Et j'ajoutais, sans trahir la pensée de la parole de Dieu, et ton prochain comme toi-même, la deuxième partie du thème qui nous était proposé. Aimer Dieu, aimer son prochain, vont de pair. Mais vous avez remarqué une petite ajoute pour aimer son prochain. Comme toi-même. Est-ce que je m'aime ? That is the question. Est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que je m'aime ? Et si je m'en réfère au texte, je dois aimer l'autre comme je m'aime moi. Alors comment puis-je m'aimer ? D'abord, si on voit l'aspect extérieur, bien des personnes ne s'aiment pas comme elles sont. Les gens qui se regardent dans la glace, c'est vrai parfois le matin quand on se lève. Alors, il y a des gens qui font quelque chose pour changer. Je ne veux citer aucun subterfuge pour masquer une image parfois qui ne convient pas. On aurait une grande liste de ce qui nous est proposé. Puis l'aspect extérieur, il y a aussi la partie qui n'est pas acceptée tant que telle. Là non plus, je ne dirai pas ni rien sur le mal-être parfois des gens qui font de grandes transformations pour essayer de se sentir bien et de ressembler à une image sans doute imaginaire. Et puis il y a l'aspect intérieur. Il y a parfois des hommes et des femmes qui, à nos yeux, sont très beaux, sont parfaits, parfaites. Mais quand elles ouvrent la bouche, ce n'est que du venin, parfois. Ce n'est que la méchanceté gratuite. Alors, comment s'aimer dans notre propre nature ? Comment je m'aime, moi, tous les jours ? Mais là aussi, la Bible répond. Et de l'aspect extérieur, il nous faut reconnaître, comme on l'a dit aujourd'hui, notre Créateur, à ce passage qu'on doit se rappeler tous les jours. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Merveilleuse. Je suis merveilleux, même le matin quand je me lève. Oui, je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Je crois que seul quelqu'un qui connaît Dieu, Dieu Créateur, peut exprimer cette louange. Il faut absolument savoir qui est notre Père, qui est notre Créateur, qui est notre Dieu, vraiment le connaître pour dire ça. Et puis il y a l'aspect intérieur, et on trouve ça dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut être renouvelé à l'intérieur. Et comment être renouvelé ? Ben, on a déjà dit, on répète, par la parole de Dieu, par la lecture, par la prière, par le Saint-Esprit. Ranimer le Saint-Esprit qui est en nous. Alors certainement que nous pourrons aimer notre Dieu et notre prochain. Mais la question, qui est mon prochain ? Un homme descendait de Jérusalem. Je ne vais pas vous refaire la lecture, évidemment. Vous savez très bien. Donc dans la parole dite du bon Samaritain, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer ? Et si on relit deux versets, cette question qui nous est posée aussi, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et fait de même. Dans lequel de ce personnage est-ce qu'on se retrouve? Est-ce que on est dans ceux qui connaissent la loi, qui connaissent la Bible par cœur, la parole de Dieu, sans l'appliquer? Ou est-ce qu'ils sont religieux? Est-ce qu'on se retrouve dans le religieux, mais qui est indifférent à l'autre? Ah, moi je connais, mais bon, les autres, qui se débrouillent. Ou alors comme ce Samaritain, étranger, rejeté, faisant ce qu'il peut pour venir en aide à l'autre miséreux et sans force, qui aime son prochain, même sans le connaître, parce qu'il ne se connaissait pas avant. Il est une autre conclusion aussi à tirer, en plus de cette parabole. Il nous est dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, à Jérusalem. Jérusalem, ville sainte, où réside notre Dieu, ville située en hauteur. Et Jéricho, ville de débauche, où règne le mal et la perversité, située en bas, près de la mer morte.
Vous voyez, le peuple est rentré par là, et là, c'est près du Jourdain, et Jérusalem se trouve à plus 750 mètres d'altitude, donc en haut, et Jéricho à moins 250. Donc un kilomètre de dénivellation, de déclinaison entre les deux. Donc Jésus a raison de dire qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc si on regarde la géographie, ben, c'est logique. Mais si on réfléchit un peu au message spirituel de cette image, l'homme descend. L'homme s'éloigne de la ville sainte, dont de la présence de Dieu, et descend vers la débauche. Descend vers le péché, il se dirige vers le péché, et il se fait massacrer. Les autres sont sur le même chemin. Je n'avais pas tout de suite capté, mais je me dis, tiens, on ne sait pas dans quel sens ils vont, mais si. Il nous a dit que le sacrificateur allait dans le même sens. Vous pouvez relire le texte, il allait dans le même sens. Que faisait-il sur le chemin de Jéricho? Un sacrificateur. Il s'éloignait aussi du lieu de la bénédiction. Le texte nous dit qu'il était là par hasard. Tiens. Je me suis dit, bizarre. Mais bon, je n'en sais pas plus. Et le Lévite, lui aussi, se trouve dans le même lieu. Pour lui, on ne sait pas dans quel sens il va. Mais peu importe, il est là aussi. Il est là, dans le même lieu. Mais tous les deux ne devraient pas être là. Et s'ils avaient eu peut-être la conscience tranquille, ils n'auraient pas passé outre après avoir vu les dégâts sur le pauvre maltraité. Je me dis, bon, s'ils n'ont rien à craindre, pourquoi? Ils pourraient se faire connaître, quoi. Sinon, on aurait peut-être remarqué, oh, c'est celui qui va au temple, tu sais bien, mais il va à Jéricho. Passons. Ils ne sont pas moins bien situés que le pécheur. Ils sont dans la même barque, mais dans la même situation. Un seul est le prochain de l'autre. Actuellement, nous sommes tous dans le même bateau, sur l'océan du monde, ou si vous voulez, entre Jérusalem et Jéricho. Peu importe le sens, ça c'est à nous à décider. Mais peut-être que si nous pensons qu'on est déjà arrivé à Jérusalem, et qu'on connaît toute la vérité, on est peut-être quand même un peu comme ce sacrificateur ou ce lévite, encore comme ce docteur de la loi, qui croit tout savoir, qui est terminé. Moi, je sais tout. Mais si nous considérons comme ce Samaritain, qui est toujours en chemin, mais qui est attentif à l'autre, alors je pense que nous sommes sur la bonne voie pour aller à Jérusalem et entrer dans la présence de Dieu, en connaissance de cause, la vie éternelle. Connaître Dieu est une priorité avant de vouloir aider son prochain. Pourquoi, à votre avis? Pour qu'en revienne toute la gloire. À lui, toute la gloire. Au Seigneur, toute la gloire. Mais dans le cas contraire, ben, on n'est qu'une bonne œuvre sociale. Et ça, tout le monde sait le faire. Il nous faut quand même travailler à l'accueil de l'autre, tout comme a fait Abraham en accueillant ses trois étrangers au chêne de Mamré, parce que dans nos visites,
il se peut qu'on accueille un ange. C'est pour moi qu'il dit, la parole de Dieu. Et si nous revenons à notre thème, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, la Bible, parole de Dieu, nous montre une voie encore plus excellente. Voilà ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Or vous qui êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps, c'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, des personnes qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades, ou de parler des langues inconnues, ou d'interpréter ces langues. Ainsi, désirez les dons, mais les meilleurs. Notre version dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Notre version dira « je vais vous montrer encore un chemin plus excellent ». Et je vous propose d'écouter ce chant qui nous guide justement vers ce chemin de l'excellence.
Jamais ne pas